Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Marc Golloridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
En début de semaine, Donald Trump a proposé un plan de paix pour le Proche-Orient. Cette proposition qualifiée de deal du siècle par le président américain est accueillie chaleureusement par le premier ministre israélien et très largement favorable à Israël puisqu'il entérine sa souveraineté sur la vallée du Jourdain et fait de Jérusalem la capitale exclusive de l'État hébreu. Sans surprise, ce plan a été rejeté en bloc par les Palestiniens du Hamas au Fatah. Mais les soutiens peinent à s'exprimer. En effet, ni les Européens ni les pays arabes ne semblent enclins à s'engager pour défendre leur cause. Alors comment le comprendre ? Quelles sont les racines de cet effritement du consensus arabe sur la question palestinienne et que peuvent-ils attendre de l'Europe ? Plan de paix américain qui pour défendre les Palestiniens ? C'est la question sur laquelle nous allons discuter ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Yves Aubin de la Messusière. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur, un spécialiste du Proche-Orient. Vous avez notamment écrit Profession diplomate qui était paru l'année dernière chez Plomb. Xavier Guignard, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous chercheur à l'Institut Noria et enseignant à Sciences Po. Avant d'évoquer toutes ces questions ensemble, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Rwanda. C'est Mariam Alagardis. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste de l'Afrique. Vous avez passé là une quinzaine de jours du côté du Rwanda. Alors d'abord, pour ce qui est de l'actualité ici en France, on a le 15 janvier la Cour d'appel de Paris qui a réouvert le dossier de l'attaque de l'avion de l'ancien président rwandais, cible, on s'en souvient, d'un tir de missile le 6 avril 94 qui avait déclenché ce génocide, on va en parler. Et puis par ailleurs, on a évidemment du côté du Rwanda ce gouvernement de Paul Kagame qui met en œuvre tout un travail de mémoire, mais aussi un travail à travers des procédures de rapatriement des combattants du FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, auxquelles appartiennent notamment anciens génocidaires. Ils sont aujourd'hui accueillis dans des camps de démobilisation. On va voir avec quel succès. On va essayer de comprendre tout ça. Et puis il y a d'autres camps d'ailleurs du côté du Rwanda dont on parlera parce qu'on accueille aussi des réfugiés qui viennent de Libye. On en parlera ensemble. Mais pour commencer, peut-être l'actualité ici en France, Mariam Malagardis, la Cour d'appel de Paris, je l'ai dit, vient de rouvrir, hein, là, c'était il y a quelques jours, ce dossier sur l'attaque de l'avion de l'ancien président qui avait lancé les exactions en avril 1994. C'est quoi l'enjeu de cette réouverture ?
Alors, c'est peut-être une réouverture pour mieux fermer. C'est une audience qui a eu lieu à huis clos à la demande des parties civiles qui, justement, s'opposent à la fermeture du dossier. Il faut savoir, c'est un serpent de mer judiciaire, cette procédure. Elle a été initiée 4 ans après l'attentat contre l'avion du président Habyarimana qui a servi de signal déclencheur au génocide, qui a pas provoqué le génocide, mais qui a servi de signal déclencheur, qui est un attentat qui reste toujours mystérieux, il n'a jamais été revendiqué. Plusieurs hypothèses ont été formulées au fil des ans. Au début, le premier juge antiterroriste français,
Jean-Louis Bruguière,
qui a pris en charge cette instruction, est très rapidement allé dans le sens d'accuser un mouvement rebelle, le Front Patriotique Rwandais, qui combattait effectivement le régime Habyarimana.
Qui avait été créé par des exilés Tutsis, auquel appartenait d'ailleurs à l'époque Kagame déjà.
Auquel appartenait l'actuel président Kagame, et qui était un mouvement en guerre contre le régime Habyarimana, et notamment contre sa politique de pogrom contre les Tutsis. Mais au moment où l'attentat a eu lieu, un accord de paix conclu un an auparavant était en passe d'être mis en œuvre. Alors Bruguière a fait une enquête assez hallucinante, pleine de manipulations, de faux témoignages, et complètement à charge, sans jamais se rendre au Rwanda sur le site du crash.
Ce qu'a fait Marc
Trévidic. Et son successeur a tiré des conclusions à 180 degrés à l'opposé, en disant, après une enquête balistique, les tirs n'ont pu provenir que de la garde présidentielle, dont ce sont vraisemblablement les extrémistes du camp présidentiel qui s'opposait à la mise en œuvre de ces accords de paix, qui aurait pu tirer sur l'avion. Après, il y a eu toute une série de rebondissements judiciaires et encore un nouveau juge nommé, lequel, au bout du compte, après donc 22 ans quasiment d'instruction, a décidé de clore le dossier, ce qui conduirait dans un premier temps blanchir, le terme n'est pas très bien choisi quand on parle.
Conduire à un non-lieu.
Conduire à un non-lieu, exactement, en ce qui concerne les accusations côté FPR.
Comment est-ce qu'on prend tout ça du côté de Kigali et du côté des Rwandais en général, pas seulement du côté du pouvoir? Est-ce que on voit ça avec une certaine inquiétude? Est-ce qu'on voit ça avec une certaine indifférence? On en pense quoi?
Alors, du côté officiel du pouvoir, la fin de cette instruction et le non-lieu est une condition au rétablissement complet des relations diplomatiques. Elles avaient été rompues au moment où Bruguière avait rendu public son acte d'accusation contre les principaux responsables rwandais. Elles ont été plus ou moins rabibochées grâce à Nicolas Sarkozy quand il était président, mais il n'y a toujours pas d'ambassadeur français à Kigali, il y a un chargé d'affaires, et la clôture de ce dossier est la condition pour une normalisation complète. Du côté des Rwandais eux-mêmes, c'est assez curieux, parce que par exemple cette audience, ils en ont pas parlé, la plupart des gens étaient même pas au courant, on dirait qu'ils ont plus ou moins lâcher le fil. Et je pense que d'une manière générale, dans l'opinion, les idées sont assez claires, que non pas qui a tiré précisément, parce que ça reste complètement mystérieux jusqu'à aujourd'hui, mais que ça serait plutôt du côté des extrémistes proches du régime et des ultras du régime.
Par ailleurs, ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est pas aussi décisif qu'on pourrait le penser. La guide que vous avez rencontrée du centre mémoriel de Kigali, vous dites de toute façon, ce n'a été que le déclencheur, mais évidemment que les conditions étaient rassemblées.
Ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est pas le centre mémoriel, c'est que la maison de l'ancien président Habyarimana, ou qui jouxte le lieu du crash, on peut la visiter. Elle a été transformée en musée d'art, mais on peut toujours la visiter.
Et c'est la guide de cette maison.
Voilà. Et derrière le mur de la maison, on voit toujours de manière hallucinante les restes de l'avion qui sont là en attendant effectivement la clôture de l'affaire, etc. Donc on peut y aller, on peut voir les restes de l'avion, et effectivement elle n'était pas du tout au courant qu'il y avait une audience à Paris, mais pour elle de toute façon il n'y avait pas débat.
Il y a pas de sujet.
C'était évident que le génocide n'avait pas été provoqué par cette histoire, puisque ça fait longtemps que eux, les Rwandais, voyaient bien qu'on dressait des listes, qu'on cachait des armes, que les miliciens Interahamwe s'organisaient et s'entraînaient, que la radio n'arrêtait pas de fustiger les Tutsis. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir le 5 février, Notre-Dame du Nil, qui est tiré d'un roman de Scholastique Mukasonga et qui raconte bien, il se passe en 73, plus de 20 ans avant le génocide, mais on voit bien les prémices de cette politique de la haine et comment finalement on embrigade les esprits en stigmatisant une minorité qui est accusé de tous les malheurs du pays, qui est censé avoir de petits nez, il y a toute une série de stigmates physiques qui d'ailleurs éveillent des souvenirs d'autres événements tragiques de l'histoire du monde, et qui montrent bien que tout ça, évidemment, ne résultait pas de l'attentat contre l'avion.
Alors, si on quitte Paris et qu'on regarde ce qui se passe du côté du Rwanda, je le disais tout à l'heure, il y a du côté du Rwanda aujourd'hui un processus de démobilisation des anciens combattants du FDLR. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots qui sont ces combattants du FDLR et comment se fait-il qu'on met en place ce processus de démobilisation du côté de Kigali, alors même que pendant longtemps, on y a été assez largement opposé? Paul Kagame, il n'était pas très pour.
Oui, alors, les rebelles du FDLR sont majoritairement, enfin, c'est tous des Rwandais, ils sont majoritairement issus de des gens qui, juste à la fin du génocide, ont franchi la frontière avec ce qui était à l'époque le Zaïre, qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, et qui ont, en fait, suivi, souvent par peur, parfois par culpabilité, les chefs d'orchestre du génocide alors en fuite, et qui, évidemment, brandissait le spectre d'une menace de représailles et qui disait si le Front patriotique rwandais, qui était en train finalement de chasser ses chefs d'orchestre du génocide, s'ils prennent le pouvoir, bien évidemment, après avoir vu tous leurs proches assassinés, vont se venger sur les Hutus. Donc beaucoup de gens, alors évidemment il y avait des gens qui avaient des choses à se reprocher, mais des gens qui n'avaient pas de choses à se reprocher, mais qui disaient bien évidemment on s'en va parce que on ne sait pas ce qui va se passer dans ce pays. Faut quand même se rappeler qu'il y a eu quand même en 3 mois près d'1 million de morts. Donc c'est un génocide d'une vitesse record, même au niveau historique. Hein. Et donc ces gens franchissent la frontière et puis pour certains vont rentrer. Il y aura encore des combats puisque l'armée rwandaise se reconstitue de l'autre côté de la frontière et donc en 96 le nouveau pouvoir rwandais à Kigali, pour assurer la sécurité de sa frontière parce qu'il y avait des incursions perpétuelles, franchit à son tour la frontière et va démanteler les camps où se reconstituaient l'armée rwandaise et les miliciens. Ce qui a suivi après, c'est toute une série de guerres et de violences qui vont notamment conduire à un changement de pouvoir à Kinshasa, à plus de 2000 kilomètres de distance, et une situation très instable dans tout le reste du Congo.
Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi.
Ah non, ça on était à bien.
Ah non, je crois que vous parliez, vous étiez arrivé là.
Et donc, une situation instable où des groupes rebelles qui continueront à vouloir rentrer par les armes au Rwanda vont se constituer. Le plus important d'entre eux sera les FDLR, qui sont un groupe très très structuré, qui vont continuer à tenter de déstabiliser le Rwanda, qui vont déjà beaucoup déstabiliser l'est du Congo. Et puis, au fil des ans, effectivement, au début, il y avait une intransigeance totale contre ces gens. Et puis au fil des ans, il y aura un message en disant à ceux qui veulent rentrer, votre place est, vous êtes rwandais, votre place est au Rwanda, etc., etc.
Et l'arrivée de Félix Tshisekedi a un peu accéléré les choses.
Alors, de manière très récente, l'année dernière, le changement de pouvoir, cette fois-ci à Kinshasa, a effectivement changé la donne parce que jusqu'à son arrivée, côté RDC, on était assez complaisant sur ce groupe qui est par moment était allié à l'armée congolaise, par moment non. Et puis de toute façon, c'était un chaos total dans cette région. Les FDLR pillaient, tuaient, violaient, mais d'autres groupes aussi. Et donc il y avait un jeu d'alliance très secret. Donc là, effectivement, étant donné que l'armée congolaise maintenant les traque dans leur bastion, il y en a qui sont faits prisonniers et qui sont renvoyés automatiquement au Rwanda. Et il y en a d'autres qui se disent, bon, peut-être qu'aujourd'hui... les marrons sont cuits et qu'il vaut mieux rentrer...
Dans le cadre de ce programme, 20 000 personnes à peu près, 20 000 combattants sont...
En 15 ans, oui.
En 15 ans.
Et là, dernièrement, il y en a eu 2 000 d'un coup qui ont été rapatriés.
Très concrètement, ça se passe comment quand on les accueille? D'abord, à quelles conditions on les accueille? Comment on s'occupe d'eux dans ces camps? Comment est-ce qu'on essaye de les réintégrer au reste de la société?
Alors c'est assez surprenant parce que on pourrait s'attendre à un camp fermé avec des gens qui sont finalement prisonniers. C'est une organisation, faut quand même le rappeler, qui est considérée comme terroriste par le Département d'État américain, dont les dirigeants ont fait l'objet de sanctions au Conseil de sécurité. C'est pas des anges, hein. Donc et on se retrouve dans ce camp de démobilisation. Il y a pas de grille, il y a pas de mur extérieur et le deal, c'est de leur dire, voilà, on va vous offrir une formation, on va aussi vous offrir quelques cours d'histoire pour bien recadrer les choses. Et puis, on vous donnera un tout petit pécule et puis après, vous rentrez sur votre colline et on verra comment ça se passe. Et alors...
Et ça se passe comment? Ça marche? Vous rencontrez par exemple un homme qui s'appelle Léonce Nzeyimana, qui est un ancien combattant des FDLR et qui a participé à ce programme de démobilisation, de réinsertion. Comment ça s'est passé pour lui?
Justement, moi, je l'avais rencontré une première fois dans ce camp de démobilisation en avril, où effectivement même le directeur du camp le dit, il dit bon, on sait pas très bien évidemment ce qui se passe dans leur tête. Nous, on essaie de leur expliquer que finalement au Rwanda il n'y a plus d'ethnie aujourd'hui, que l'histoire a été polluée par une propagande ethniste depuis l'indépendance, et on essaie d'extirper ces préjugés et ces idées dans lesquelles ils ont grandi, avec lesquelles ils ont vécu isolés dans les forêts du Congo pendant 20 ans. Ça marche pas. Lui-même disait, c'est pas évident. Donc, quand je suis revenue, je me suis dit, j'avais interviewé 2-3 personnes dans le camp de Mutobo, on m'avait laissé les interviewer sans témoin, donc de manière assez transparente, mais malgré tout, il est évident que je ne pouvais pas être sûre que, quand je leur demandais, mais vous êtes content de revenir au Rwanda, ils me diraient la vérité. J'étais une journaliste blanche, étrangère. Ils savaient pas ce que j'allais faire de leur témoignage. Donc moi, mon idée, c'était, je me suis dit, il y en a un qui m'avait semblé un peu plus éveillé que les autres. J'avais gardé son téléphone. Et donc, sans rien dire à personne, quand je suis revenue au Rwanda, je me suis dit, je vais le contacter et je vais aller voir sur sa colline comment ça se passe concrètement quand on revient après 20 ans passés dans la forêt.
Et alors ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est la dèche totale. En termes, lui, il s'est lancé dans l'élevage de poulets. Enfin, encore une fois, c'est un type qui a été un guérilleros dans le bush pendant 20 ans. Toutes les poules sont mortes, donc il n'a pas du tout été récompensé de cette première tentative. Maintenant, il cultive des patates. Alors, il a des espèces de projets à terme pour agrandir son champ, etc. Il m'a reçu dans une maison qui est une misère absolue, où il n'y a pas encore de plafond, il n'y a pas de ciment sur le sol. Donc, on est dans la région des volcans, donc le sol est complètement granuleux, il n'y avait pas d'électricité, on était dans un petit salon en terre nue avec sa femme et ses deux enfants, donc on sent bien que économiquement ça va pas,
Et au-delà de la misère, comment ça se passe avec les voisins, parce qu'il incarne quand même la figure de l'ancien bourreau?
Oui et non, parce que lui, il est parti aussi très jeune, donc il a vraisemblablement pas trempé dans le génocide. Il avait 17 ans, il était scolarisé, il a justement suivi le flot. Après,
donc il est bien intégré aujourd'hui au reste de la société, malgré les difficultés économiques.
Ce type a vécu les armes à la main pendant 20 ans, il a sûrement tué des gens. D'après ce qu'il dit, ça se passe plutôt bien. Et surtout, je pense que l'attitude qu'il a vis-à-vis de son pays natal, malgré les difficultés économiques, doivent d'une manière ou d'une autre favoriser son insertion, parce qu'il fait partie de ceux qui justement continuent à appeler ses anciens camarades encore dans la forêt et leur dit
« Venez, rentrez au pays.
Rentrez, rentrez, laissez tomber. Je veux dire, la vie dans la forêt, c'est la misère. Vous arriverez à rien. Il faut revenir dans son pays, recommencer une nouvelle vie. »
Maria Malagardis, d'un camp à l'autre, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a aussi aujourd'hui des camps de réfugiés qui ont été ouverts au Rwanda. Il y a effectivement un accord qui a été mis en place entre le HCR, l'Union européenne et l'Union africaine. Aujourd'hui, le Rwanda accueille des réfugiés libyens, qui étaient anciennement en Libye, qui ont essayé de gagner l'Europe et qui n'ont pas réussi, se retrouvaient dans des centres de détention. Et aujourd'hui, le Rwanda les accueille. Pourquoi ?
Alors, initialement, la proposition a été faite par le président rwandais au moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, il y avait eu un reportage de CNN qui parlait de marché aux esclaves. Enfin, un reportage qui avait fait beaucoup de bruit, qui avait choqué beaucoup de personnes. Et donc, le président rwandais avait dit, nous, on est prêts à en accueillir, si besoin, à les sortir de cet enfer, etc., etc. 2 ans plus tard, une structure s'est formée entre HCR, Union européenne, Union africaine et le Rwanda. Et sur le Rwanda a promis qu'il pourrait en accueillir jusqu'à 30 000 par vague successive malgré tout. Et donc, il y en a à peu près 300 qui sont déjà arrivés. Ils sont installés dans un camp au sud du pays où là aussi, il n'y a pas de grille, ils peuvent sortir. Et ils ont été choisis en général parmi les plus vulnérables. Donc, il y a beaucoup de mineurs, beaucoup de femmes.
Beaucoup de jeunes, essentiellement
de jeunes. Et l'idée, c'est là de leur offrir 2 options, rester en Afrique, éventuellement rentrer dans leur pays, évidemment aucun d'entre eux ne le veut, même rester en Afrique parce que ils ont beaucoup sont encore très traumatisés, donc l'image qu'ils ont de l'Afrique en général est assez négative, ou postuler, entreprendre les démarches pour de demandes d'asile et voir s'il y a des pays qui seraient prêts à les accueillir. Alors il y en a 7 qui sont partis en Suède, il y a quelques pays qui se sont engagés, pour l'instant on n'est pas dans le concret, mais qui sont engagés, notamment la France, à en accueillir un certain nombre. Et après, on verra. Mais faut pas se leurrer, ça va être des procédures qui vont être longues. On a vu comment ça se passe dans d'autres endroits, au Niger ou même en Grèce, pays que je connais par ailleurs bien, où là aussi les Européens avaient dit, par rapport à un pays européen pourtant, on va se répartir le fardeau. Et en fait, ça se fait au compte-gouttes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux?
Il y en a qui seraient partants pour rester au Rwanda? Vivre au Rwanda?
Pour l'instant, non, mais c'est très récent. Ils sont arrivés cet automne, ils sont arrivés entre septembre et novembre. Donc, c'est un pays qu'ils connaissent pas. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir gérer le temps pour eux aussi. Et dans l'immédiat, c'est vrai que ce qui est assez rassurant, c'est de voir que, visiblement, ils reprennent goût à la vie. Ils suivent des cours d'anglais. Ils sont suivis aussi par des psychologues, parce que certains, encore une fois, ont vécu des expériences cauchemardesques, et que ce qui est certain, c'est que tous gardent un souvenir mais terrible de leur séjour dans les camps libyens.
C'est ce que vous dit notamment cette jeune fille Mati, qui a 16 ans, qui vient du Soudan du Sud. Merci beaucoup Maria Malagardis.
Merci aussi.
Je rappelle qu'on peut évidemment retrouver vos reportages sur le site de Libération. Un grand merci d'être passé dans nos studios.
Merci. Batuvuye mo tutabishaka Imana ibahe iruhuko ridashira Ten years of suffering Ten years of wandering Ten years remembering Hey yo, this is reality, let's keep it real teach us now deep inside, never hide from genocide, in our hearts let's decide, always say no to genocide, no more genocide in Rwanda, no more genocide in the world.
Voilà, c'est avec cette chanson de Jean-Paul Samputu que l'on tourne cette page rwandaise. Plan de paix américain, qui pour défendre les Palestiniens, c'est la question qu'on va se poser ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisqu'en milieu de semaine, le président américain a dévoilé son plan de paix pour le Proche-Orient, un plan très largement favorable à l'État hébreu.
Ma vision présente une occasion gagnant-gagnant pour les deux parties, une solution réaliste à deux États qui résout le risque que représente un État palestinien pour la sécurité d'Israël. Aujourd'hui, Israël fait un pas de géant vers la paix.
Président Abbas, I want you to know.
Président Abbas, je veux que vous sachiez que si vous choisissez la voie de la paix, l'Amérique et de nombreux autres pays seront là pour vous aider de beaucoup de façons différentes, et nous serons là à chaque étape du processus.
Voilà, alors si les dirigeants palestiniens ont fait front pour dénoncer la proposition américaine, les voix pour dénoncer son parti pris ont été rares et particulièrement mesurées. Paris a salué par communiqué, je cite, les efforts du président Trump et étudiera avec attention le plan de paix qu'il a présenté. Du côté de la chancelière allemande, on a insisté sur l'importance d'ouvrir des canaux de dialogue. Même du côté de l'Égypte, on appelle à étudier attentivement le plan de paix américain. Alors qui défend encore les Palestiniens? Qu'attendre de ce plan de paix? Et d'ailleurs, qu'y a-t-il derrière ce plan de paix? Yves Aubin de la Messuzière et Xavier Guignard sont nos invités ce matin. Merci d'être avec nous. Marc Semo, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi. Alors, on savait déjà que le plan de paix serait assez largement favorable à Israël, mais peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce manque de soutien, à la fois du côté des pays arabes, mais aussi du côté de l'Europe. La France, par exemple, qui est historiquement, quand même traditionnellement, très solidaire vis-à-vis des Palestiniens, on ne l'a pas beaucoup entendu.
Absolument. Et les mots du Quai d'Orsay ont été pesés au trébuchet, saluant, tu le disais à l'instant, les efforts de Donald Trump, je cite, et affirmant que le plan serait étudié avec attention, donc aucune critique explicite, juste la réserve. Emmanuel Macron laisse au ministère des Affaires étrangères la première ligne, même si l'Élysée a imposé ses éléments de langage. Et les réactions des autres pays européens sont tout aussi prudentes. Mais le profil bas français fait sens parce que, effectivement, jusqu'ici, Paris a toujours voulu faire entendre sa voix pour une solution du conflit israélo-palestinien, aujourd'hui dans l'impasse. Mais, de fait, Emmanuel Macron a fait le choix du réalisme. Le conflit israélo-palestinien n'est plus central au Moyen-Orient. Les enjeux cruciaux sont l'Iran et la menace nucléaire, avec des nouvelles alliances objectives qui se créent, par exemple, entre Israël et l'Arabie Saoudite, aux côtés des Américains. Les grands enjeux, ce sont aussi la Syrie et l'Irak. Or, sur ces dossiers clés, l'Élysée ne veut pas encore aggraver les contentieux avec Washington. Paris, avec Londres et Berlin, tente en effet encore un compromis pour faire baisser la tension entre les États-Unis et l'Iran. Paris souhaite plus que tout que les forces américaines restent au nord de la Syrie et en Irak pour continuer la lutte contre toute résurgence de Daesh qui est la menace principale. La France a surtout aussi besoin de l'aide des forces américaines au Sahel. Donc prudence face à un plan qui, aux yeux de Paris, n'a aucune chance de se concrétiser. On attend qu'il s'enlise. Une position qui ne changerait que s'il y avait des réactions beaucoup plus fortes sur le terrain. Mais on avait vu, après que les États-Unis aient proclamé et reconnu Jérusalem comme capitale indivisible et exclusive de l'État d'Israël, qu'il n'y avait pas eu, à l'époque, grand-chose. Est-ce que ce sera différent cette fois ?
Yves Aubin de la Messuzière, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez été étonné par le manque de réaction de la France et de l'Europe en général, ou finalement, comme le dit Marc Semeau, voilà, c'est du réalisme tout ça?
Ben oui, il y a une part de réalisme à l'évidence, mais quand même, cette réaction à minima, qui reprend, disons, des déclarations françaises et européennes au cours de ces dernières années, et considérant, à tort, à mon avis, que le conflit israélo-palestinien a perdu de sa centralité. Il reviendra forcément. Et on verra bien quelles seront
pourquoi
les réactions.
Pourquoi il reviendra forcément?
Il reviendra parce qu'il y a une immense frustration de la jeunesse palestinienne et qui même ne suit pas les mots d'ordre, soit du Fatah de Mahmoud Abbas, soit du Hamas. On a vu les derniers événements qui se sont passés à Gaza avec ces jeunes qui lançaient des pierres et avec plus d'une centaine de morts. Et il y a une espèce de rythme.
Là,
qui
fait que... Il n'y a pas eu beaucoup de réactions
non,
du côté des
Palestiniens
aujourd'hui.
Mais attention,
au plan.
Parce qu'elles peuvent revenir plus tard. C'est-à-dire, moi je crois beaucoup à la diplomatie de la prévention. Quand on réfléchit bien sur la situation telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle va se développer, parce que on appelle ça un plan de paix, on parle de processus de paix, sans être latiniste, on est plutôt dans le récessus que dans le processus. Et qu'est-ce qui avance? C'est uniquement la colonisation. Donc on peut, comme certains le disent, c'est un plan d'annexion. Et d'ailleurs, dans la précipitation, alors que ce n'était pas prévu, quand on regarde le détail du plan du plan de Trump, il n'était pas prévu qu'il y ait une annexion immédiatement. C'est-à-dire, c'était quand même plus ou moins à négocier. Et alors, c'est pas le cas. Alors, il va y avoir donc une accélération de l'annexion, à la fois de toutes les colonies, et puis aussi de la vallée du Jourdain. Et puis aussi, il y a une autre question qui va être fondamentale et qui va provoquer probablement des réactions beaucoup plus fortes, c'est juste le statut changé de l'esplanade des mosquées, puisque les trois religions, donc aussi les juifs eux-mêmes, pourront aller prier. Alors, il y avait donc un statut très particulier qui interdisait effectivement que les juifs qui peuvent aller en tant que touristes, les Israéliens, sur l'esplanade, n'aient pas y prier.
Xavier Guignard, comment est-ce que vous comprenez ce manque de mobilisation? On va finir le tour de table, Xavier Guignard, ce manque de mobilisation. Et est-ce que vous croyez à une remobilisation diplomatique? Je ne parle pas sur le terrain au niveau des Palestiniens, mais une remobilisation diplomatique sur ce sujet-là.
Alors le manque de réaction s'explique parce que le grand avantage du plan de Trump, c'est de ne pas se traduire immédiatement en symbole fort. Il n'y a pas aujourd'hui pour les Palestiniens quelque chose qui vient de changer. En fait, le plan a largement énoncé le fait accompli, c'est-à-dire la domination israélienne sur les territoires, la colonisation, la primeur de la question sécuritaire pour les Israéliens. Finalement, depuis l'annonce de Trump, la réalité palestinienne n'a pas grandement changé.
Donc, et on s'y attendait du côté palestinien? Est-ce qu'on a même été consulté?
Alors consulté, non. Il n'y a plus de dialogue entre les deux parties depuis plus de 2 ans. Ils ne s'attendaient probablement pas à autre chose qu'un accord israélo-américain sur les positions les plus dures des Israéliens. Mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de raison d'aller mourir tout de suite pour cette annonce. Parce qu'aujourd'hui, se rebeller, ça veut quand même dire, et Aubin Lamussière l'a rappelé, ça veut dire mourir. qu'on se rebelle à Gaza ou en Cisjordanie, c'est prendre ce risque-là. Aujourd'hui, personne n'est prêt, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et vous avez pointé probablement ce qui pourrait complètement changer la donne. C'est le changement de statut de l'esplanade des mosquées, qui là, symboliquement, a quand même été le point de départ en 2000 de l'intifada qu'on a connue, qui a été d'une violence rare et qui a subi une répression terrible. Là, on a les éléments, probablement pour un déchaînement populaire, qu'aucun pouvoir palestinien ne pourra cadrer.
Sans compter qu'on ne sait jamais comment, dans quelles circonstances ça peut exploser. Quand on pense à la première intifada, on a deux décennies à peu près d'occupation où il ne se passe pas grand-chose. Et puis d'un coup, avec un accident de voiture dont on pense, avec des mauvaises informations, qu'il s'agit d'une vengeance qui fait tout exploser. Donc,
justement, moi, je voudrais revenir sur l'esplanade des mosquées. Parce qu'effectivement, c'est peut-être la chose qui pourrait être une étincelle. Alors ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas eu encore pour le moment de réaction. On est vendredi, donc on verra ce qui va se passer aujourd'hui à la fin de la prière. Mais effectivement, c'est le chiffon rouge. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi. Alors, on voit très bien la logique politique de Trump et comment le cadeau fait à la droite israélienne est au plus dur. Mais on ne comprend pas pourquoi, alors que pour le reste, effectivement, ça ne fait qu'entériner un fait accompli, il prend ce risque.
Yves Aubin, la Messidien.
Oui, et ça pose un problème d'ailleurs. Peut-être le seul pays arabe qui ait, disons, réagi négativement, c'est la Jordanie. Pourquoi ? Parce que la Jordanie, le royaume jordanien, est gardien de ce lieu saint, c'est-à-dire l'esplanade des mosquées. Donc là, il y a un statut, il y a une jurisprudence, et ça va poser un problème à la Jordanie. Et effectivement, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, si on a vu l'image, il a voulu dramatiser et scénariser, disons, la réaction, Mahmoud Abbas, quand il s'est présenté avec sa direction, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Un grand panneau qui représentait l'esplanade des mosquées. Et le message, il ne s'adresse pas uniquement aux Arabes, mais au monde musulman. Je pense que là... Et ce que je peux dire aussi, c'est que lorsqu'on regarde bien et attentivement la propagande de Daesh, il n'y a pas encore si longtemps, ils disaient « demain à Jérusalem ». Ils vont peut-être en faire, puisqu'il y a une espèce de mutation, très bien, ils n'ont perdu leur territoire, mais pas leur propre, de faire de Jérusalem, justement, un objectif prioritaire.
Rappelons que précisément, Daesh a communiqué sur le fait qu'Israël devenait une cible, c'était il y a quelques jours, il y a une concomitance assez frappante.
Et ce qui est d'autant plus étonnant que jusque-là, Daesh n'avait absolument pas placé la Palestine et Jérusalem au cœur
Et Daesh n'est pas loin, il est au Sinaï, et même parmi les Arabes israéliens, il y a eu un petit réseau. Ils sont très à l'écoute dans les réseaux sociaux. Alors voilà, donc, c'est-à-dire que même le Hamas sera dépassé. Et le djihad islamique est donc très soutenu maintenant par l'Iran, de manière très claire. Voilà donc les conséquences, effectivement, de tout ce plan.
Xavier Guignard, sur cette esplanade des mosquées.
Ce qui est intéressant, c'est que...
Parce que vous disiez, pardon, ça va poser problème à la Jordanie, mais en réalité, quand on regarde les choses, le plan, il pose problème tout court. On piétine le droit international. On entérine avec ce plan l'annexion des colonies. C'est piétiner le droit international. Donc, au-delà de cette question-là, c'est le droit international lui-même qui est mis en question. Xavier Guignard.
Alors complètement, ça c'est le fondement de ce plan-là et on pourrait y revenir. Je voudrais juste rajouter un point sur Jérusalem. C'est probablement la seule question sur laquelle Abbas a toujours été intransigeant. Abbas a été favorable à des concessions très fortes sur le droit au retour des réfugiés, sur la redéfinition des frontières, sur le partage de souveraineté, sur l'échange de terres. Il y a une question sur laquelle il n'a jamais cédé, une seule question qui l'a toujours mobilisé, c'est celle de Jérusalem. Comme capitale et comme effectivement Jérusalem maintenant ce statu quo très particulier sous tutelle jordanienne. On a là effectivement tous les ingrédients en Palestine et à l'extérieur pour une remobilisation s'il se passe quelque chose sur le terrain. Ce qu'on peut imaginer, c'est que comme souvent dans ces cas-là, l'appareil sécuritaire israélien freine des cas de fer en disant c'est une ligne rouge et qu'il soit capable de contenir une partie des cadres politiques qui pourraient vouloir faire du fait accompli. Aujourd'hui, ce sont les principaux adversaires en Israël de ce plan-là.
Sur le terrain, il va falloir attendre pour voir, mais en tout cas, au niveau des dirigeants politiques, il se trouve que, oui, il semble que là, il y a un front uni qui est en train de se reconstruire. Il y a une réunion cette semaine après le plan qui a été initié par Mahmoud Abbas, et il y avait le Fatah, évidemment, il y avait le Hamas, tout le monde était là. Yves Aubin de la Messusière, vous voulez réagir ?
Oui, pour revenir à ce que vous disiez là tout à l'heure, évidemment, Trump s'est totalement affranchi du droit international. Et ce qui est très curieux dans la déclaration à minima française, 6 lignes, et depuis pas d'autres déclarations, sur un dossier aussi important et structurant de la politique étrangère de la France depuis le général de Gaulle, c'est ça. Eh bien, il y a une petite phrase qui dit « Nous allons examiner le plan ». Et pour s'assurer qu'il est conforme, enfin, je ne me souviens plus quelle est la phrase, conforme au droit international. Il est évident qu'il n'est absolument pas conforme. Il fait l'impasse totale de toutes les résolutions, et notamment de la dernière, qui a été effectivement adoptée sans veto américain, ça c'est une première, à l'époque de Obama, et qui condamnait de manière extrêmement ferme la colonisation. Et ce que je dis à propos de la France, c'est quand même quelque chose, puisqu'on étudie le plan, c'est-à-dire on n'en a pas eu connaissance. Aucun des pays européens, sauf la Grande-Bretagne, qui était, ça c'est l'effet Brexit, qui a été informé très précisément de ce plan. Donc la France a été, et l'Europe, totalement marginalisée sur ce dossier.
Maximum. Juste un point, mais effectivement le plan n'avait pas été divulgué dans ses détails, mais de fait quand on l'a lu, personne n'a été surpris, parce que les positions de la droite israélienne depuis longtemps, et c'est globalement entérine la réalité de fait. Donc d'une certaine façon, on s'attendait à ça quand même.
Oui, on s'y attendait. D'ailleurs, par anticipation, ce plan a été mis en œuvre. C'est la reconnaissance de Jérusalem, capitale indivisible d'Israël, et donc par les États-Unis, et c'est ce qu'on retrouve dans le plan, et la légitimation aussi de l'annexion des colonies. Donc il y avait beaucoup d'éléments qu'on connaissait, effectivement, et puis il y a aussi la dimension économique, parce que les États-Unis, et c'est assez régulier chez les Américains, ils pensent qu'on peut régler la question israélo-palestinienne, la question palestinienne, par l'apport, effectivement, de financements considérables sur lesquels on peut avoir encore des doutes.
Alors justement, je voulais y venir parce que faut aussi évoquer les contreparties. Peut-être faut-il mettre des guillemets. Il n'empêche qu'il y en a du point de vue des États-Unis. Il y a d'abord le fait que on est quand même sur une solution à deux États, même si évidemment l'État qui est proposé dans ce plan-là est extrêmement morcelé. Et on peut se demander jusqu'où est-ce qu'effectivement on peut avoir une souveraineté sur un État aussi morcelé. Il n'empêche qu'il est là. Il y a la reconnaissance d'un État palestinien. C'est la première des concessions. La deuxième, c'est la question financière que vous évoquiez, c'est-à-dire ces 50 milliards qui sont mis sur la table. On pourrait aussi d'ailleurs se demander qui serait prêt à payer. Et puis, ce qu'on en pense surtout du côté palestinien, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est important. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit doubler à peu près le PIB annuel des territoires. Donc, c'est quelque chose qui est absolument considérable. Donc, peut-être qu'on considère que c'est pas rien du côté des Palestiniens. Et puis, il y a une troisième concession qui est quand même des échanges de territoires, des restitutions de territoires, notamment dans le désert du Negev, au sud d'Hébron, et puis le long du Sinaï. Qu'est-ce que vous pensez, Xavier Guignard, de ces concessions, de ces contreparties pour les Palestiniens?
Alors sur les échanges de territoires, je pense que là, les Palestiniens sont quand même absolument abasourdis. On leur prend les terres arables, la vallée du Jourdain, et on leur donne un bout de désert. C'est-à-dire, l'échange est de fait plus que pernicieux, il est insultant. Et ça n'a pas échappé aux commentateurs palestiniens, qui par ailleurs doivent se contenter aujourd'hui, comme nous, d'une carte extrêmement réduite. C'est-à-dire qu'on attend, et les négociateurs américains le disent eux-mêmes, il va falloir traduire cette carte que l'on a vue passer en une carte haute résolution, c'est-à-dire une carte détaillée. Aujourd'hui, la taille de la carte fait que les traits sont extrêmement grossiers. En fait, on ne voit pas très bien dans le détail, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette carte, elle montre, mais elle ne dit pas, de quoi ce plan est exactement fait. Sur la contrepartie financière, qui aujourd'hui occupe 2/3 à peu près du document, qui reprend dans les grandes lignes ce qui a été présenté à Manama en juin dernier, les 50 milliards sont une promesse d'investissement étranger, pas qu'américain, principalement du Golfe, sur les 10 ans à venir dans l'économie palestinienne. Et il faut savoir aujourd'hui, ce qui va expliquer pourquoi les Palestiniens n'ont pas sauté de joie, que pour tout euro ou dollar qui rentre dans l'économie palestinienne, entre 65 et 70% repartent dans l'économie israélienne. C'est le prix à payer de l'enchâssement de ces deux économies depuis 1993. Donc le plan de soutien à l'économie palestinienne est d'abord, et ça il faut l'avoir en tête, un plan d'investissement dans l'économie israélienne, un plan de développement des relations économiques entre les Israéliens et les monarchies du Golfe. Et puis, la dernière concession que vous avez relevée, celle de l'État palestinien, finalement, elle peut encore nous alerter sur la capacité de ce plan à ne pas aller au bout de sa logique. Parce que dans les faits, quelle que soit la définition la plus minimaliste qu'on puisse avoir de ce qu'est un État, ce qu'on a sous les yeux n'est plus un État. Ce plan n'est pas un plan de paix, cet État n'est plus un État. Et pourtant, personne va au bout de la logique en disant il n'y aura pas d'État palestinien. Il va y avoir quelque chose. Une porte est ouverte où on parle en cas de refus des Palestiniens. On pourrait rappeler les Jordaniens pour le vieux rêve israélien qui est de dire les Jordaniens vont gouverner ces municipalités à distance. Mais les Palestiniens aujourd'hui sont légitimes à se demander quelle est la définition de l'État qui permet de faire croire à quiconque que ça en est un.
Encore un tout petit mot et puis je vous passe la parole, mais vous parliez des pays du Golfe. Il y aura demain une réunion de la Ligue arabe. Il se trouve que depuis longtemps, les membres de la Ligue arabe soutiennent évidemment financièrement les Palestiniens et en particulier précisément les États du Golfe. Est-ce que ce plan, il signifie qu'il va y avoir une montée en puissance des aides financières de ces pays du Golfe en particulier? Quelle est la réalité d'ailleurs aujourd'hui de leur aide financière? Est-ce qu'on donne toujours autant qu'on a donné par le passé? Et qu'est-ce que ça nous dit du soutien réel précisément de ces membres de la Ligue arabe qui, semble-t-il, peut-être aussi considèrent que il est temps maintenant de normaliser les relations avec Israël? Xavier Guinard et puis Yves Aubin d'Amisuzia.
Ce qui est sûr, c'est que le soutien financier qui n'est pas énorme, hein, qui permet simplement de courir derrière les retards de paiement que l'autorité palestinienne a. L'autorité fonctionne avec un budget extrêmement réduit, dont je n'ai plus exactement le volume en tête, mais ils ont 3 mois de trésorerie qui sont régulièrement mis à vide. Et donc, les soutiens du Golfe permettent simplement de faire fonctionner la machine. En aucun cas, c'est un développement de l'activité économique qui, de toute façon, n'est pas autorisé par les accords d'Oslo. Enfin, l'accord de Paris, qui est la déclinaison économique des accords d'Oslo, interdit le développement de la structure industrielle et économique au sens large palestinienne. Donc, les États du Golfe, aujourd'hui, peuvent avoir l'impression que ce plan leur traduit leurs investissements à perte en investissements un jour à profit. Mais ils sont aujourd'hui très faibles et le coût à payer peut être élevé. Et là, le chiffon rouge de Jérusalem, qui peut-être n'a été mis là que pour pouvoir être tiré demain si la Ligue arabe en fait une ligne rouge, mais aujourd'hui, ils vont avoir du mal à justifier devant leurs opinions publiques, qui, elles, restent indivisibles sur la question palestinienne. Parce que s'il y a une fragmentation, ou une polarisation, ou une lassitude des États arabes sur cette question-là, ce n'est pas le cas de leurs opinions publiques. Mmh. Et ils vont avoir du mal à justifier d'avoir ouvert aux quatre vents l'esplanade des mosquées.
Vous partagez cette vision?
Oui, non, je le partage tout à fait, parce qu'effectivement, on verra bien comment les opinions vont évoluer. Et c'est pas uniquement parce qu'il n'y a pas de manifestation de masse dans telle et telle capitale, mais il faut voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est important à examiner. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ambiguïté de la part des pays du Golfe. Alors, les Émirats Arabes Unis, donc, ont eu une attitude donc totalement positive vis-à-vis du plan. Mais c'est pas le cas de l'Arabie Saoudite, parce qu'il faut voir ce qui se passe à l'intérieur du royaume, c'est-à-dire MBS, qui est l'homme fort et qui lui était très favorable à ce plan depuis le début, prêt à apporter des financements. Mais c'est pas le cas du roi Salman, qui a eu Mahmoud Abbas au téléphone et qui n'a eu de cesse de critiquer le plan Trump. Parce que maintenant, ce dossier palestinien est remonté auprès du roi Salman, dont on sait qu'il est peut-être en fin de parcours. On sait qu'il est malade, mais c'est son entourage. Donc, c'est pas si simple. Et alors, il faut voir aussi ce qui se passe en Égypte, parce qu'il y a une opinion aussi qui est très mobilisée autour de la question palestinienne. Et là, ça va être une donnée fondamentale. Et moi, je prévois, après examen, c'est comme la position de la France, après examen de ce plan qui est totalement contraire au droit international, eh bien, les positions des États vont évoluer et on va voir ce qui va se passer à la Ligue arabe. Là, il y aura une ligne de fracture, bien entendu, entre des pays, parce qu'il faut voir, il y a des pays, quand les pays du Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, c'est la Tunisie, il y a d'autres pays arabes qui ont critiqué vertement ce plan-là. Donc là, il y aura certainement un affrontement politique
mais
au sein de la Ligue arabe.
Mais il pèse moins non, dans non, l'intérieur de la Ligue arabe que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis
mais peuvent peser dans les opinions.
Osons rapidement la question qui fâche.
Oui.
Est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, diplomatiquement, et notamment pour les pays occidentaux, dans la France, de parler de solution à deux États? Ou est-ce qu'on est dans une situation où, à la fois sur le terrain et à la fois dans la réalité des rapports de force, de fait, ça devient une... et ce plan entérine, de fait, la fin de la solution à deux États?
Il ne croit
pas. Effectivement, quand on voit la situation sur le terrain, alors il y a cette forme de pragmatisme du président, de notre président, qui rejoint le pragmatisme aussi du président Trump, qui n'a de cesse, sur les questions internationales, d'essayer de conclure des deals. Alors, il y a cette réalité. Mais on ne voit pas si la solution de deux États qui est menacée, objectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? On a parlé d'État unique, et d'ailleurs, il y a eu des sondages très intéressants chez les Palestiniens, et qui démontrent, et surtout parmi les jeunes, qu'il y a une majorité qui se disent, ben voilà, pourquoi pas un État unique, mais simplement, on va réclamer nos droits égaux à ceux des Israéliens. Mais les choses ne vont pas se passer comme ça. Parce que on évolue, et voyez ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Il y a des voix prestigieuses qui s'expriment pour dire, attention, Israël va se transformer en État d'apartheid. Et le mot n'est plus tabou.
Juste un mot, c'est quoi aujourd'hui le rapport de force justement au sein des Palestiniens? Parce que ça fait longtemps qu'il y a cette division avec d'un côté ceux qui considèrent qu'il faut continuer à jouer la carte de la solution à deux États et ceux qui considèrent qu'il faut défendre les droits des Palestiniens dans un État binational. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est lequel? Et est-ce que le plan Trump peut modifier ce rapport de force?
Alors, le rapport de force, il y a effectivement entre le Fatah et le Hamas. Hein, et donc, ces tentatives au cours de ces dernières années qui n'ont jamais abouti de retrouver une réconciliation et pour avoir une position commune. Bon, là, toutes les factions se sont réunies, mais tout ça ne va pas durer. Et parce qu'il y a en fait une entité Gazaoui, et puis on voit bien, et il y a longtemps que je le pense, que l'idée des Israéliens depuis longtemps, que l'État palestinien, il sera à Gaza. C'est là. Et d'ailleurs, les Émirats arabes unis veulent renforcer effectivement l'économie de Gaza, qui est la construction d'un port. Enfin, il y a tout un plan qui n'a pas été élaboré, je crois, dans le plan Trump. Et donc voilà, c'est véritablement cette difficulté. Et le problème est de savoir si effectivement les Palestiniens ne croient plus à la création de cet État, parce qu'ils voient la réalité. Mais d'un autre côté, ils se disent, bon, on va réclamer les droits, mais on va se retrouver dans une situation d'apartheid. Et ça, c'est une situation qui risque d'être intolérable pour Israël même.
Xavier Guignard. Sur cette question-là, la ligne de fracture entre les factions palestiniennes a plutôt été entre ceux qui voulaient effectivement les deux États et ceux qui défendaient une autre position plus maximaliste de reconquête totale. La question de se dire on sort de État ou pas État, on sort de la question de la Palestine pour s'intéresser aux droits des Palestiniens dans un État, quel qu'il soit, quel que soit son nom, était encore légèrement tabou il y a quelques années, parce que ça voulait dire la fin de l'État comme solution, quelle que soit sa variable. Elle n'est effectivement plus tabou aujourd'hui. Et c'est peut-être l'une des surprises. Pour moi, il y a deux surprises dans ce plan. La première étant l'amateurisme quand même avec lequel il a été rédigé. Quand on le lit de la première à la dernière page, il est mal construit, il est approximatif. Mais il y a une autre surprise, c'est que finalement, il est quand même obligé de défendre paradoxalement les deux États, parce qu'aller contre, c'est dire à Israël assumer complètement ce qui est en train de se passer. Et on voit là, tout le monde s'arrête au bord du guet. Tout le monde voit ce qu'il y a devant nous. Il y a l'impossibilité pour les Palestiniens d'avoir un État, mais personne ne veut aller jusqu'au bout de la logique qui sera de dire aux Israéliens, vous n'avez plus d'autre choix aujourd'hui que de trouver un compromis sur la question des droits. Et là, ce statu quo qui ne finit pas d'évoluer, mais que l'on propose aux Palestiniens, est de moins en moins tenable et ils vont être de plus en plus nombreux à dire, bon bah, dont acte, qu'est-ce que vous nous offrez comme droit? Et c'est une question extrêmement piégeuse pour les Israéliens.
On va faire comme chaque vendredi, on est en partenariat avec l'association Cartooning for Peace, qui est un réseau de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on sélectionne un dessin sur notre sujet du jour, c'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux!
Assis!
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Et le dessin de ce matin revient sur plus de 40 ans d'intervention diplomatique américaine au Proche-Orient, Hélène.
Oui, Donald Trump n'est pas le premier président américain à s'impliquer dans le processus de paix au Proche-Orient. Mais comme sur bien d'autres tableaux, le milliardaire se distingue prodigieusement de ses prédécesseurs. La preuve avec ses trois vignettes, trois scènes historiques caricaturées par le dessinateur israélien Kishka. La première vignette nous fait remonter le temps jusqu'en 1979. Jimmy Carter tient les mains du premier ministre israélien Menachem Begin et du président égyptien Anwar el-Sadat. Ce geste diplomatique scelle le traité de paix israélo-égyptien signé à Washington un an après les accords de Camp Davis. C'est la première fois qu'un pays arabe reconnaît Israël. Les deux dirigeants concernés recevront d'ailleurs le prix Nobel de la paix pour leur rôle dans ce moment historique. La deuxième vignette nous emmène en 1993, lors de la signature des accords d'Oslo. Bill Clinton, tout juste élu, se félicite de la poignée de main entre Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien, et Yasser Arafat, qui est alors président de l'Organisation de Libération de la Palestine et qui sera élu président de l'autorité palestinienne trois ans après. Si ces accords seront mis à mal quelques années plus tard, sur le moment, ils s'annoncent prometteurs et sont soutenus par la communauté communauté internationale. Pour le symbole, ils sont signés sur la même table que les accords de Camp Davis. La troisième vignette revient sur la signature du deal du siècle dont Donald Trump s'est vanté en début de semaine. C'est toujours le même décor, la Maison Blanche, mais un détail crucial saute aux yeux. La juxtaposition de ces trois moments historiques souligne ce qui manque cruellement sur cette dernière scène, l'acteur palestinien. La médiation perd alors tout son sens et l'espoir qu'on devine dans les deux vignettes précédentes disparaît. Comment un accord unilatéral peut-il aboutir? D'ailleurs, l'OLP a menacé de se retirer des accords d'Oslo, car en plus de faire l'histoire à sa manière, Donald Trump risque de défaire les petits pas de ses prédécesseurs.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux et notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Peut-être une réaction Xavier Guignard, Yves Aubin de la Messusière et peut-être en particulier sur la deuxième vignette du coup, parce que c'est vrai 93, c'est un moment où il y a beaucoup d'espoir. Alors là, le dessin ne le dit pas, mais c'est vrai qu'il y avait une hésitation, on s'en souvient. Yasser Arafat avait hésité avant de serrer la main de Yitzhak Rabin. Mais
c'était plutôt Rabin qui hésitait.
Oui, en tout cas, il y avait une hésitation.
Non, c'était lui, serré.
Oui, c'est vrai.
Ça lui posait un problème. Yasser Arafat était beaucoup plus chaleureux. Et quand on revoit l'image, c'est très intéressant, effectivement. En tout cas,
c'est un moment où vraiment l'espoir renaît. Et d'ailleurs, les accords d'Oslo prévoient justement la création à terme d'un État palestinien dans les 5 ans. Pourquoi ça n'a pas marché?
Ça n'a pas marché parce que la situation sur le terrain, et d'ailleurs sous les gouvernements aussi travaillistes, comme les gouvernements de droite, la colonisation s'est poursuivie. Elle s'est accélérée à un rythme, disons, incroyable là, ces dernières années, mais ça a toujours été le problème fondamental. Et ce qui manque ici, bien évidemment, il y aurait pu y avoir, c'est-à-dire le rêve de Clinton, c'est en 2000, quand il y a eu les négociations à Camp David. On n'était pas loin d'un accord. Et là, on peut se dire rétrospectivement que peut-être Yasser Arafat a loupé le coche à ce moment-là. Et parce qu'on était effectivement très très loin du deal actuel, parce qu'on parlait aussi des swaps, mais la plupart des en dehors des grandes colonies, auraient été restituées aux Palestiniens, et Jérusalem était annoncée comme capitale de deux États. Et même Clinton était capable de dessiner, moi j'ai vu ça très précisément, la carte de Jérusalem avec la Jérusalem arabe, la Jérusalem juive et aussi le lieu où on aurait pu installer l'administration palestinienne. Donc là on est visiblement, quand on le voit entre la première image et puis la dernière, on est là dans la régression et dans et ne parlons plus de processus de paix.
Xavier Guignard, peut-être une réaction sur ce dessin, et je vous invite peut-être à réagir sur la dernière vignette, celle de 2020, celle où il n'y a pas justement Mahmoud Abbas. Quelle responsabilité pour Mahmoud Abbas, force est de constater qu'il n'a pas été en capacité de défendre les intérêts des Palestiniens, il n'a pas été en capacité de réunir les conditions du dialogue, il a peut-être aussi une responsabilité. Je ne dis pas qu'il est le seul. Il se trouve que ses prédécesseurs, notamment Yasser Arafat, y étaient parvenus. C'est quoi sa responsabilité à lui?
La première, c'est d'avoir accepté de continuer à diriger un exécutif palestinien sans la moindre légitimité. Son mandat est terminé depuis 2009, on est en 2020 aujourd'hui. Sa première responsabilité, c'est celle-là, c'est de ne pas s'être reconduit pour avoir un minimum de légitimité. Mais je tempérerai immédiatement ce propos en disant qu'il évolue pas tout seul. C'est un jeu à plusieurs acteurs, on les a listés tout à l'heure, l'Europe, la France, le monde arabe, les États-Unis, avec qui doit le composer. Personne ne semble vraiment intéressé à entendre la voix qu'il porte, la voix des Palestiniens. Il y a un lien qu'on peut faire par ailleurs entre les deux dernières images, puisqu'on voit la figure de Rabin qui est une figure célébrée, mais le plan de Trump, et on l'a peu dit, se place sous le patronage de Rabin, notamment en citant un discours célèbre de Rabin en 95, qui dit « La vision que j'ai de ce que font être les accords d'Oslo, c'était 2 ans après leur signature, c'est moins qu'un État. » Et il y a deux raisons pour lesquelles ces accords n'ont pas abouti. La première, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est celle de la poursuite de la colonisation, mais la deuxième, c'est celle de l'absence de définition de ce que serait la souveraineté palestinienne. Et finalement, ce qui s'est passé depuis 93 n'a été qu'une érosion de cette définition, au point où aujourd'hui, effectivement, le plan nous dit c'est un concept polymorphe, on fait dire ce qu'on veut au concept de souveraineté, donc on va rien lui donner. Mais, quelque part, Trump, en citant Rabin, piège tout le monde, puisqu'il cite l'icône de la paix israélienne qui elle-même disait les Palestiniens ne doivent pas avoir tout à fait un État.
Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait un État, même s'il y a effectivement ce territoire extrêmement fragmenté, ils n'en ont que partiellement le contrôle sur les frontières, sur l'espace aérien. Que reste-t-il effectivement de la souveraineté palestinienne dans cet accord
de Trump? C'est intéressant, à travers votre réflexion, moi je reviens à l'époque de François Mitterrand. En 1988, est annoncé à Alger, par les instances palestiniennes, la création d'un État palestinien. La question a été posée à François Mitterrand, pour dire, et pourquoi est-ce que la France, en 1988, ne reconnaîtrait pas cet État palestinien? Quelle a été la réponse de Mitterrand? Pour, disons, envisager la reconnaissance d'un État, il y a trois éléments. D'abord, il faut un territoire. Bon, il y a un territoire. Bon, ce sont les lignes de 1967.
Hein. Morcelé, mais il y a un territoire.
Et en 88, il faut une autorité. L'autorité n'était pas là. Elle ne pouvait pas s'exercer. Donc, il n'y avait pas les éléments suffisants pour une reconnaissance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir après comment les choses ont évolué. Et la grande déclaration européenne, c'est la déclaration de Berlin en 1999, mais d'inspiration française, qui parlait d'un État palestinien viable, je dis bien viable et démocratique, dont la reconnaissance pourrait intervenir en due time. C'est le moment venu. Alors c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce que le moment n'est pas venu? Une reconnaissance peut-être dans d'autres conditions, parce qu'il faut effectivement reconnaître le délitement de l'autorité palestinienne.
Il n'est pas beaucoup plus viable aujourd'hui, on pourrait même dire qu'il va plus mal encore.
Ce serait peut-être la meilleure des protections. D'un État palestinien qui, d'ailleurs, est reconnu par plus de 130 pays, hein, je crois. Et puis aussi, il y a 9 pays européens qui reconnaissent l'État palestinien. Alors évidemment, il y a les vieilles reconnaissances de l'époque de l'époque communiste. Hein. Mais ils n'ont pas retiré cette reconnaissance. Et puis, il y a un ou deux États qui l'ont reconnu. Il y en a d'autres. Alors pour revenir à la position, c'est quand même important, de la France. On sait très bien, puisque la France a toujours été à l'avant-garde sur le dossier palestinien, la reconnaissance de l'OLP, la rencontre avec Yasser Arafat, qui avait choqué au sein de l'Union européenne. Et après, tous les autres pays européens sont allés dans ce sens. Et puis après, beaucoup plus tard, les États-Unis. Et si la France reconnaissait, pendant la situation actuelle, peut-être après des élections présidentielles et législatives palestiniennes, pour donner une nouvelle légitimité à l'autorité palestinienne. Et si la France allait vers la reconnaissance de l'État palestinien, elle aurait un effet d'entraînement, et je crois que c'est la meilleure des protections.
Mais vous pensez qu'elle le fera?
Probablement pas maintenant, mais à un moment, Laurent Fabius l'avait dit. Il avait dit, il y aurait une reconnaissance. On est revenu en arrière parce qu'on voyait bien que c'était extrêmement... Pas dans le contexte immédiat actuel, mais dans un autre contexte.
Xavier Guignard.
La position française, pour revenir un instant dessus, elle a été évidemment décriée à raison en disant finalement pour les Français ce dossier n'est plus une priorité. Finalement, on accepte aussi que cette chose n'existera pas, que le plan Trump à la fin de la semaine, plus personne n'en parlera. Mais il y a quelque chose qui reste derrière, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui qu'on ne s'oppose plus au coup de force permanent, ce qu'est la diplomatie de Trump. On reconnaît aujourd'hui que quand on viole aussi de façon aussi flagrante le droit international, on ne dresse plus un mur de protection. Et ça... En Europe, on va le payer cher parce que nombreux sont les acteurs à nos frontières ou au sein de l'Europe qui n'attendent que cette jurisprudence pour s'en servir. Et le dossier palestinien est intéressant pour ça aussi, c'est que quand on défend le droit des Palestiniens, on ne défend pas les droits des Palestiniens pour ce qu'ils sont, mais pour ce que le droit international en dit. Quand on les lâche, on lâche toute velléité de se servir de cet outil et il ne reste plus grand-chose d'Europe quand on lâche ça.
Merci beaucoup à tous nos invités. Xavier Guignard, pardon, je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut Noria. Yves Aubin de la Messusière, merci d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur. Je rappellerai vous concernant Profession Diplomate, un ambassadeur dans la tourmente. C'était chez Plon l'année dernière. Et un grand merci à Marc Semo, notre partenaire, comme tous les vendredis. Rendez-vous la semaine prochaine, Marc.